la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Vivre notre Péniel. Alors, nous allons faire trois lectures ensemble pour ce faire. La première, dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, un verset, où l'apôtre Pierre nous dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Soyons armés à la pensée de souffrir. » Nous lisons un passage un peu surprenant quand je parlais de Péniel. C'est un endroit que Jacob, à l'époque Jacob, donc, avait pu... vous savez, le contexte était difficile. Il avait trompé son frère. Et vous savez qu'on récolte souvent ce que l'on sème, même si Dieu ne punit pas selon nos iniquités, heureusement. Cependant, on récolte aussi ce que nous semons. Et Jacob, alors qu'il avait trahi, trompé son frère, était amené à le revoir. Il avait 400 personnes avec lui, son frère Ésaü, à venir. Et Jacob était un peu tout tremblant. Et par rapport à cela, donc avec ses femmes, avec, puisqu'il avait été aussi trompé, vous savez, on trouve toujours son maître, hein, Jacob, c'était rusé, trompeur. Il avait été trompé par son beau-père. Et puis avec ses deux femmes et ses troupeaux, tous ses serviteurs, ses servantes, il donc marchait à la rencontre de son frère. Mais donc il était dans un état d'extrême faiblesse, mais c'était salutaire pour lui parce que Dieu voulait poursuivre son œuvre dans sa vie. Et à ce moment-là, il a expérimenté son Péniel et ça a fait de Jacob un nouvel homme. Et Dieu nous permet par étapes, par paliers, à aussi expérimenter des péniels qui peuvent être plus ou moins importants dans notre existence, mais toujours à dessein, pour nous amener à ressembler au nouvel homme que Dieu voulait faire de nous en Jésus-Christ et à nous accorder ce nom nouveau, bien sûr, que nous découvrirons quand nous serons dans la gloire. Donc Dieu a tout prévu d'avance, il est dans les lieux célestes, il est assis et il nous voit aussi assis avec lui à la droite du Père, dans sa présence. Et pour cela, sur cette terre, il nous amène à le ressembler progressivement. Et ça, c'est son œuvre, c'est l'œuvre de son esprit. Et c'est au travers des péniels, bien sûr, que c'est des marques un peu plus fortes qui nous permettent de mieux le connaître. Car c'est vraiment l'objectif de nos cœurs, mieux connaître le Seigneur. Alors, nous lisons au verset 24 du chapitre 32 de la Genèse. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Cet homme, bien sûr, fils de l'homme, fils de Dieu, Jésus, l'ange de l'Éternel. Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Donc, qui dérive de deux mots, qui veut dire « lutter avec Dieu ». Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant « Mais fais-moi, je te prie, connaître ton nom ». Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, qui veut dire « face de Dieu hein, », puisqu'il a expérimenté, il a une révélation, une vision de Dieu là. « Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée ». Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche, résultat de son combat. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est en boiture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Donc c'est signe un petit peu de ce qu'était sa force, son appui. Il avait été frappé par Dieu dans tout ce qui faisait sa force, tout ce qui faisait sa gloire un petit peu, tout ce qui faisait sa personne sans Dieu, quoi. Et nous lisons un dernier verset que nous connaissons très bien aussi, c'est dans 2 Chroniques. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Dieu dira, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays, je guérirai. Nous prions le Seigneur et partageons ensemble sa parole bénie. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier de nous avoir conviés à ce rendez-vous. C'est une réunion de plus, mais jamais une réunion de trop. Car nous sommes là, venus à ta rencontre, tu nous as précédés dans ce lieu, mais tu nous y as aussi accompagnés par ta présence divine dans nos cœurs. Et c'est par ton esprit que nous t'avons rendu ce culte. Merci pour ces louanges qui sont montées vers toi. Merci pour l'expression de ton amour pour nous, de nous avoir parlé au travers des dons. Merci pour le partage du pain et du vin qui nous rappelle que tu nous as aimé le premier d'un amour parfait et que ton amour a été accompli une fois pour toutes à la croix du calvaire et que nous avons tout pleinement en toi. Merci pour les offrandes qui sont que l'expression de ce que tu nous as au préalable donné, qu'une partie, mais que nous avons aussi donné avec joie et avec foi pour l'avancement de ton règne et de ton royaume. Nous te remercions pour la communion des saints. Nous sommes bien en ta présence, en ta compagnie et nous sommes bien ensemble. Nous te remercions pour ta parole. Elle est bénie éternellement et elle va encore nous bénir durant ces quelques instants par ton esprit qui habite en nous, par ton onction qui nous enseigne et par ton esprit de sagesse et de révélation qui veut encore parler à chacun. Seigneur, tu aimes ton peuple, tu veux le bénir, tu veux le sanctifier, tu veux l'édifier dans ta très sainte foi, cette foi qui vient de toi, car tout est de toi, tout est par toi et tout revient à toi. À ton nom et à ton nom seul soit la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la sagesse. Au siècle des siècles, nous t'adorons notre bon maître. Béni soit le nom de Jésus. Amen. En début d'année, j'avais une aspiration, enfin comme nous l'avons, mais plus particulièrement cette année, de mieux connaître le Seigneur. L'Écriture dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent », dira Jésus, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu », dans la prière sacerdotale. Et Jésus dira à Samaritaine « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle ». Et en fin de compte, la vie, elle procède de Dieu et nous sommes appelés à connaître cette vie. Il ne s'agit pas de connaître des choses sur la vie, mais il s'agit de connaître la vie elle-même. C'est bien de prêcher sur le Christ, c'est encore mieux de prêcher le Christ, et nous sommes appelés à connaître le Christ pour qui il est, vraiment dans sa personne, dans son identité. Et par rapport à cette aspiration que j'avais sur mon cœur, je l'avais partagée à l'Église, parce que c'était vraiment ma prière pour l'Église, en disant il faut qu'ensemble, cette année, Dieu nous fasse la grâce de mieux le connaître, de le connaître d'une manière plus personnelle, vraiment plus concrète. Et puis, en faisant cette prière, effectivement, ça venait de mon cœur, je me suis aperçu que le Seigneur y contribuait, mais par le moyen des épreuves. Je n'avais pas pensé au chemin qu'il allait nous faire parcourir pour exaucer cette prière. Je ne voyais que l'exaucement de cette prière, en tout cas le résultat de cela. Mais je me suis aperçu que c'était le chemin de Dieu, et en méditant l'Écriture, Dieu me rappelait sa parole par son esprit, et en fin de compte, je m'aperçois que c'est le chemin de tout à chacun, en fin de compte. Et si l'on souffre ce matin, et j'ai pu entendre cela, qu'il y avait de la souffrance, ce n'est pas l'effet du hasard. Nous allons le voir ensemble. Tout d'abord, nous avons lu que nous sommes appelés, nous ici-bas, à être armés à la pensée de souffrir. Job disait que l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Depuis la chute, l'homme, à peine conçu dans le ventre de sa mère, est amené à souffrir. Une mère qui va boire, qui va fumer, qui va... Déjà le fœtus, l'embryon peut déjà être malmené, le fœtus ensuite. Et on sait que dès qu'on est sur Terre, on est environné de souffrance. Quand quelqu'un naît de nouveau, puisque Dieu appelle les hommes à naître une fois en vue de naître de nouveau, si Dieu a permis qu'on soit né sur cette terre, c'était afin que nous le rencontrions et pour que nous connaissions cette nouvelle naissance. Dieu n'aurait pas permis que nous naissions une première fois s'il n'avait pas prévu que nous naissions de nouveau. Et lorsque nous répondons à son appel d'accepter cette nouvelle naissance, à partir de là, on s'aperçoit que la vie n'est pas plus simple pour autant. Même si c'est une vie parallèle entre la vie humaine, puisqu'on cumule, on va dire, deux vies, la vie humaine avec toutes ses contraintes, ses souffrances. Vous savez, la souffrance, on a toujours. Je me rappelle d'un homme au stand biblique à Nice, qui j'avais donné un prospectus. Il était donc, à l'époque, on disait pas SDS, on disait clochard, mais donc il était un peu à la rue comme ça, et puis tout content de dire, tiens, je vais lui parler de Jésus, je vais lui dire que Jésus l'aime et que Dieu veut lui venir en aide. Il lui a dit, mais attends... je t'ai rien demandé. Pour moi, c'est métro, boulot, dodo. Moi, j'ai pas de contraintes. Ce qu'il avait oublié de dire, c'est qu'en voulant s'épargner la souffrance d'aller au travail, la souffrance de et c'est vrai que sur Terre, c'est comme cela. Le fait de construire une vie de famille, le fait de construire une vie professionnelle, le fait de la santé, on souffre de différentes manières. Il en avait d'autres. C'était de pas savoir si on allait lui piquer le peu qu'il n'avait pas. C'était de pas savoir où il allait dormir le soir même, et il avait d'autres souffrances encore plus grandes que celles qu'il voulait éviter. Donc sur Terre, dans tous les cas, le fait d'être sur Terre nous amène à la souffrance. Mais Mais la nouvelle naissance nous amène dans une dimension d'un nouveau royaume qui, là aussi, n'est pas en reste au niveau des épreuves, au niveau des combats, puisque ce que nous avons de précieux, c'est Jésus dans notre cœur. Et le fait de garder Jésus, c'est entretenir cette foi que Dieu nous donne, puisque l'apôtre Paul dira à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat », donc qui dit combat dit relever des défis, dit souffrir quelque part, « J'ai gardé la foi ». Alors, quand quelqu'un est né de nouveau et veut prendre les eaux du baptême, je lui dis toujours, en premier lieu, tu sais, ce n'est pas de la superstition que de prendre les eaux du baptême, c'est ni plus ni moins te conformer, tu n'es pas plus grand que Jésus, Jésus lui-même s'est conformé à la volonté de son Père, tu vas prendre les eaux du baptême par obéissance, parce que tu vas t'identifier, cependant, sache que la vie ne sera pas plus facile pour autant, peut-être même tu auras des nouveaux combats, en plus des anciens, qui viendront, parce que le fait même que tu appartiens à Jésus. Alors, il dit, oui, je sais, ils sont tellement enthousiastes, tellement ou quoi, mais j'appuie beaucoup là-dessus, parce que c'est très important, j'ai l'impression que parfois, les gens aujourd'hui se disent, bah, si je prends les baptêmes, je vais être un peu protégé, et j'aurai moins de problèmes. On intègre mal que sur Terre, Dieu ne nous a pas appelés à une vie facile, il nous a appelés à une vie responsable. Et sur Terre, le fait d'assumer notre responsabilité, c'est accepter le fait qu'on sera amené à relever des défis, et inévitablement à souffrir. Alors évidemment, quand un enfant devient prodigue, déjà même pour le fait de venir à Dieu. Quand on vient à Dieu, c'est bien souvent, j'ai remarqué ça en tout cas, ça arrive que ce soit autrement, mais la plupart du temps, suite à une souffrance, suite à un problème. Avant d'être humilié, dira le psalmiste dans le psaume 119, je ne sais pas qui a été l'instrument pour l'écrire, mais toujours est-il, on connaît l'auteur, Dieu lui-même, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Et c'est vrai que bien souvent, c'est au travers des souffrances qu'on prend conscience qu'il y a peut-être une vie autre que celle que l'on vit et qui nous fait réfléchir à l'au-delà. Et c'est comme quelqu'un me disait un jour, les caries dans les dents, on n'aime pas ça, bien sûr, mais c'est pour prévenir qu'il y a un mal. Si on ne souffrait pas de la carie, la dent souffrirait encore plus parce que le mal de la carie nous rappelle qu'il y a un problème pour aller chez le dentiste et éviter un mal encore plus grand qui serait la dent qui deviendrait perdue. Donc là, c'est pareil. Avant de connaître Dieu, bien souvent, on a des épreuves parfois qui font qu'à un moment donné, la personne qui dit « Oh Dieu, pourquoi faire ? Pour moi, tout va bien. » À un moment donné, cette personne, à cause d'un changement dans sa vie, je me rappelle d'une... au stand biblique, là aussi, oui, effectivement. J'avais donné un tract à une dame. Et cette dame, on avait parlé du Seigneur, elle avait écouté attentivement, religieusement, et puis le tract, elle avait mis dans son porte-monnaie, son portefeuille, et puis à Cannes-sur-Mer, et donc des années sont passées. Jean-Luc Bresse, qui faisait partie de l'église de Cannes-sur-Mer, va dans cette église comme stagiaire, et puis à Montpellier, et puis il me dit, tu sais, il nous raconte, une dame est venue à l'imposition des mains, elle m'a dit, il y a des années en arrière, j'étais à Cannes-sur-Mer, j'étais marié, on m'avait parlé de Dieu, j'avais écouté, j'avais gardé le traité, et puis tout allait bien, et puis bon, les années ont passé. Entre-temps, nous avons déménagé à Montpellier, mon mari est parti, je suis retrouvé divorcé, enfin, toute seule, donc une épreuve. Et par rapport à cette épreuve, j'étais vraiment un peu dans un état dépressif, et à ce moment-là, Dieu m'a fait rappeler toutes les paroles que j'avais entendues des années plus tôt. Suite à ça, je me suis rappelé qu'on m'avait donné un traité, elle prend le traité, elle regarde l'adresse, c'était église évangélique, donc elle trouve l'équivalent sur Montpellier, et c'est comme ça qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Donc souvent, c'est au travers d'une souffrance qu'on vient au Seigneur. L'enfant prodigue, lui aussi, ça a été une certaine souffrance, quand il a voulu croire que l'herbe ailleurs était plus verte. Je me rappelle, au début de ma conversion, moi, ça me choquait, ça. Mais je comprends, hein, je comprends aujourd'hui. Mais c'était un jeune qui me disait, oh, moi, j'ai toujours grandi dans les foyers chrétiens. Toi, tu connais le monde. Pour moi, je n'apprécie pas parce que je n'ai pas connu le monde. Je dis, mais tu ne te rends pas compte. Dieu t'a gardé de cela. Et il pensait que l'herbe ailleurs était plus verte. Mais j'ai dit, mais si tu savais, je viens d'ailleurs. Non, l'herbe est loin d'être plus verte, elle est plutôt grillée. Et parfois, en tant que croyant, malheureusement, on peut avoir des moments et on n'a pas à juger. On est là pour aimer, hein, on est là pour prier, on est là pour accompagner, on est là pour relever. Des croyants peuvent s'imaginer qu'ailleurs l'herbe est plus verte. Et on l'a vu avec le fils prodigue. Et quand il a quitté la maison de son père, certes, le père ne l'a pas retenu. Et puis il a vu que l'herbe, comme elle était plus verte ailleurs, il en mangeait des carouges. On sait comment cette histoire s'est terminée. Au point où, au fort de sa souffrance, à cause de cette souffrance, il est revenu vers son père, voir à Dieu. Il était infidèle, c'est vrai. Mais le frère aîné, il était tout autant infidèle. Sauf que le frère aîné était moins cohérent avec ses actes. Il était présent de corps, il est dans la maison, mais son cœur ne savait pas apprécier les bontés de son père pour lui. Et il avait un cœur propre juste. Donc, le frère aîné, pour Dieu, en fin de compte, au travers de cette parabole, était aussi infidèle que le fils cadet. Sauf qu'il y en avait un qui avait une cohérence avec ses actes. Je ne dis pas qu'il faut être cohérent quand on est fidèle dans son cœur. Il faut au contraire revenir à la fidélité de Dieu dans notre cœur. Mais l'autre, dans l'hypocrisie, et parfois on est comme des pharisiens, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on appartient au Seigneur, et on a une certaine fidélité apparente, hein, mais dans notre cœur on est aigri. Il y a de la souffrance, parce qu'on n'accepte pas, on se dit, et on est aigri, on est frustré, on est négatif, on va critiquer, etc. On va médire. On va critiquer, mais bien sûr qu'il faut critiquer de manière constructive, c'est comme ça qu'on avance, hein, il ne s'agit pas d'être des mini-oui-oui. Mais on va être dans le négatif, et pourtant, on est là en réunion, et quand on verra quelqu'un qui revient à la maison, en disant, mais dis donc, il avait tout, et il a tout bazardé, et puis il revient, et puis quand il va revenir, Dieu va le bénir encore plus peut-être qu'avant, ouais, ah non, là c'est trop, moi je suis resté, moi ça fait des années que je cherche à être marié, et j'ai pas réussi à me marier, lui il s'en va, il vit une vie de débauche, il revient, paf, la première, et voilà. Alors lui, tout lui réussit, et moi, rien à faire. Et quelque part, Dieu veut nous montrer par là que notre cœur est peut-être aussi prodigue que le fils prodigue, sauf que nous sommes moins en cohérence dans nos actes, et qu'on a un semblant de fidélité, mais on ne peut pas tromper Dieu ni se tromper soi-même, si même des fois on se trompe, et Dieu veut nous amener par cette souffrance, justement, à prendre conscience qu'il faut revenir à la maison du Père. Même si on ne l'a pas quitté en apparence, il faut revenir à la maison du Père dans son cœur. La propre justice, c'est condamné par Dieu, évidemment. Mais on souffre aussi lorsque nous marchons avec le Seigneur. Là aussi, on a un réflexe. Comment ça se fait qu'il est né aveugle? C'est lui ou ses parents qui ont péché? Toujours cause à effet. Si je souffre, c'est que je suis en porte-à-faux. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. C'est que je ne plais pas au Seigneur en ce moment. Il est en colère contre moi. Et l'Écriture dit tout l'inverse. Bien sûr que les raisons précédentes sont des raisons par lesquelles on peut souffrir. Mais il y a aussi la raison que celui qui porte du fruit, Dieu les monte pour qu'il en porte davantage. Et l'émondage, ça fait mal. Ça veut dire que parfois, et bien souvent, et je l'espère bien souvent, nous souffrons parce que nous sommes pleinement dans le plan de Dieu. Parce que Dieu est plus ambitieux que nous-mêmes. Nous atteignons un palier, on se dit, oh, ça va comme ça par rapport à avant. Mais Dieu dit, tu t'arrêtes en chemin. J'ai prévu au-delà pour toi. Tu n'as pas encore atteint ce nom que je t'ai réservé, que tu auras dans la gloire, ce nom nouveau. J'ai prévu autre chose pour toi. Et il nous émonde. Et là, ça fait encore mal, et on se dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, je fais tout pour, je ne me suis jamais aussi bien conduit qu'aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que j'ai plus d'épreuves. Et justement, Dieu nous dit, non. Je suis content de toi. Je suis très content de toi. Et comme je suis content de toi, ben, je t'émonte parce que j'ai mis la barre plus haute pour toi. Voilà, pour toi, Dieu châtie ceux qu'il aime, et pour toi, je veux que tu ailles plus loin. Je ne veux pas que tu t'arrêtes en chemin, mais je veux que tu ailles plus loin. Donc, je fais ce qu'il faut pour que tu puisses aller plus loin. Merci Seigneur, même si ça fait mal, Jésus nous dira, celui qui porte du fruit, Dieu les montre pour qu'il en porte davantage dans Jean 15. Alors nous avons vu Péniel, et Péniel, c'est un peu l'école de Dieu pour chacun d'entre nous. L'école de Dieu, l'école biblique, qui peut faire partie de l'école de Dieu, est réservée à certains ou certains peuvent en bénéficier. Certains diront, l'école de la vie, c'est l'école de Dieu. C'est vrai, l'école de la vie fait aussi partie de l'école de Dieu. Mais dans l'école de Dieu, je me suis aperçu qu'il y avait une pédagogie divine qui était le brisement. Dieu a une pédagogie pour nous amener à mieux le connaître et aller plus loin avec lui. C'est l'école du brisement. Et c'est ce qui s'est passé à Péniel pour Jacob. Jacob aimait les choses de Dieu. Les croyants, quand on est né de nouveau, Dieu met cet amour dans notre cœur pour Dieu. C'est comme ça, c'est Dieu qui le met en nous. Et on a soif de Dieu et on a soif des choses d'en haut. Par contre, quand on se convertit, on a beau avoir soif des choses en haut, on a encore un côté charnel très prononcé. Quand on dit qu'un chrétien est charnel, il est avant tout chrétien. Mais quand on dit qu'il est charnel, c'est que la chair a encore trop d'importance dans sa vie, elle est trop visible. Quand on dit qu'un chrétien est spirituel, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de chair. Mais la maturité spirituelle fait qu'on voit davantage la vie de l'esprit en lui que sa chair qui s'exprime. Et par rapport au fait qu'on soit charnel quand on vient au Seigneur, ben le Seigneur est obligé parfois de mettre des coupes franches pour nous amener à aller plus loin. L'apôtre Paul, à un moment donné de sa vie, dira « Mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, misérable que je suis ?» Et juste après, il dira « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, il n'y a désormais plus de condamnation qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc, on voit deux lignes qui se suivent, mais entre deux, il y a eu un Péniel. Entre deux, il y a eu l'école de Dieu. Entre deux, il y a eu la révélation de qui était Paul et la révélation de qui était Jésus. Et tant qu'on n'a pas la révélation de qui est Jésus, mais d'une manière personnelle, on a beau croire en Jésus et avoir reçu Jésus, on aura une tendance à s'appuyer sur nous-mêmes. Alors Dieu veut nous délivrer, au travers de ces épreuves, veut nous amener à nous délivrer aussi de notre orgueil. Alors ça fait drôle de dire, un chrétien est orgueilleux, force est de constater, comme le dit Steph, c'est 33 ans que j'appartiens au Seigneur, pour moi-même. Force est de le constater pour moi-même. Si c'était que pour moi, je serais triste, néanmoins, triste. Mais je serais un peu consolé par ailleurs, parce que je me dis, tiens, je suis largement en dessous. Mais néanmoins, ça m'encouragerait de dire, tiens, mais force est de constater qu'au fil du temps, je m'aperçois qu'il y a encore trop d'orgueil dans le peuple de Dieu. C'est vrai que Dieu fait grâce aux humbles, et on est venu à Dieu parce qu'on a ouvert nos cœurs, donc on s'est humilié. Car Dieu élève celui qui s'abaisse, et c'est parce qu'on s'est humilié que Dieu nous a fait grâce. Donc, je ne dis pas qu'on n'est que de l'orgueil, mais il reste encore de l'orgueil, et Dieu veut nous délivrer de cet orgueil. Parfois, on peut dire, moi, j'étais pas brillant, et je ne m'estime pas plus brillant aujourd'hui, sauf que j'en suis davantage conscient aujourd'hui, c'est peut-être la différence. Mais dans les actions, ou dans les réactions, on voit l'orgueil. Dans les actions, parfois, une personne peut penser de dire « Seigneur, t'as tiré le bon lot, là t'as fait le bon choix, moi j'ai décidé d'être comme ça, vraiment tu ne vas pas le regretter Seigneur. » Tout juste si on ne penserait pas que Dieu nous serait redevable. Et ça c'est incrédule, ça veut dire quelqu'un qui a foi en lui, il est incrédule à l'égard de Dieu. Et en fin de compte, c'est de l'orgueil parce que le déluge, les pensées des hommes se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est la débauche, les œuvres de la chair. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Genèse chapitre 6. Mais 114 ans plus tard, la tour de Babel. On veut construire. Ne prends pas, ne goûte pas. Choses qui paraissent humbles dans le culte volontaire et le mépris du corps, mais sans aucun mérite, et contribuent à la satisfaction de la chair. Et parfois, on peut être religieux, être charnel, et orgueilleux. Et des fois, on a des cœurs durs parce qu'on va s'attacher à un rituel, on va s'attacher à des principes plutôt que s'attacher au Seigneur qui nous a pardonné à la croix et qui veut nous rappeler d'où on a été sorti pour qu'on regarde l'autre, non pas de haut, mais qu'on puisse le voir comme son frère ou son futur frère s'il n'est pas encore au Seigneur, ou vraiment un frère bien-aimé s'il s'en est écarté, que Dieu nous a fait la grâce de le ramener dans sa maison. Et Dieu veut que nous soyons humbles parce que l'humilité précède la gloire et par le brisement, Dieu nous délivre de notre orgueil qui colle à notre peau et qu'on voudrait s'en débarrasser par nous-mêmes, on n'y arriverait pas. Les réactions. Parfois, on agit mal dans l'action, je vous l'accorde. Le juste tombe 7 fois, donc c'est tomber que mal agir. Et puis, dans la réaction, normalement, au moins un des deux, quelqu'un fait du mal à un frère. L'autre frère devrait au moins de dire « Seigneur, pardonne-lui, il n'était vraiment pas dans son assiette, Seigneur, pardonne-lui. » « Quoi ? Il a osé faire ça à moi ? Il ne sait pas qui je suis, il ne m'a pas calculé ?» La réaction, et c'est lui qui a commencé. Alors après, pour le pardon, bonjour, il faudrait... Ah ben non, il a commencé, il est plus jeune, il m'a manqué de respect. C'est vrai qu'une action peut être mauvaise, mais ce n'est pas parce qu'une action est mauvaise qu'on va l'anoblir en réagissant mal. L'action est mauvaise, elle est passée. Mais ce n'est pas en réagissant mal au tac au tac qu'on va régler le problème. Au contraire, on va l'amplifier. Donc l'orgueil se manifeste au travers de nos actions, mais il se manifeste surtout, j'ai pu voir, au travers des réactions. Quand ces frères ont dit, il y a un manque de pardon parfois. Des fois, on ne veut pas pardonner. Ça, c'est grave, très très grave. Très, très grave. Alors, Stéphane ne m'a pas dit ce qu'il y a dans l'Église, tout ça. Je parle pas, je dis pas qu'est-ce que je dois dire ou quoi. Non, hein, c'est le, mais ça, Dieu à la croix nous a pardonné. Et la base même de notre marche avec Dieu, c'est le pardon. C'est parce que Dieu nous a pardonné que nous sommes là ce matin. Et c'est parce que Dieu nous a pardonné, nous avons pris la Sainte Cène. C'est parce que Dieu nous a pardonné que nous pouvons espérer le lendemain des jours meilleurs, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tout est sur le pardon. Et nous, nous étions coupables. Lui, il était saint et il a pardonné des coupables. Nous, nous sommes des coupables, certes pardonnés, donc on est devenus des saints, mais qui sommes appelés à pardonner d'autres coupables. Un coupable qui doit pardonner. Eh bien, on a du mal. Dans la réaction, on m'aperçoit qu'on a du mal. Et c'est dommage parce que c'est la base même. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a plus d'évangile, il n'y a plus la peine, on le range, parce que c'est au travers du pardon que nous sommes venus à Dieu. S'il n'y a plus de pardon les uns avec les autres, parce qu'il dit oui, mais vis-à-vis de Dieu, je suis d'accord. Oui, mais, hein. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Parce que Dieu veut que tu ressentir ton amour au travers de ton amour vis-à-vis de ton semblable. Dieu ressentira ton amour pour lui au travers de l'amour que tu auras manifesté à ton semblable. Alors certains diront, ouais, mais vous vous rendez compte, dans l'Église, il y a quand même des problèmes, etc. Alors je ne suis pas pour les problèmes. On n'est pas épargné non plus. Mais comment pouvons-nous grandir dans l'exercice du pardon si au préalable, il n'y avait pas les problèmes? Je ne cherche pas les problèmes. Un jour, un jeune couple vient vers un serviteur et lui dit, voilà, frère, pasteur, nous voudrions nous marier. Ah, alors le pasteur pose une question, il dit, c'est bien. Est-ce que vous êtes déjà disputé entre vous? Ah, oh, non. Attendez un peu, vous n'êtes pas encore prêt. C'était pas le fait de ne pas se disputer. Bien sûr que éviter la gloire, c'est d'éviter les querelles. Mais il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, il faut être réaliste. Il faut quand même être vrai. Sur Terre, hélas, on n'évite pas toujours les querelles. Et quand querelles il y a, ce qui est plus important, c'est de pouvoir les surmonter. C'est-à-dire qu'entre jeunes couples, bon, vous apprenez à vous connaître, il y aura des tensions. Comment vous allez surmonter? Qui va démontrer un minimum de maturité pour construire ensemble? Il en est de même pour une église. Bien sûr que l'idéal, c'est d'éviter que... Mais quand problème il y a, parce qu'il y a eu un dérapage dans l'action, ben, il faut rattraper la chose dans la réaction. Et il faut qu'on manifeste de l'amour, parce que c'est uniquement par orgueil qu'on excite les querelles. Et Dieu veut délivrer son peuple de l'orgueil qui pourrait subsister en lui, parce que c'est l'orgueil qui a fait tomber Lucifer, c'est l'orgueil qui a fait tomber Adam et Ève, et c'est bien souvent l'orgueil qui fait tomber l'enfant de Dieu. Donc nous devons veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose et réclamer sa grâce pour être délivrés de notre orgueil. Délivrés de notre incrédulité. Avoir foi en soi, c'est quelque part être incrédule à l'égard de Dieu. Plus on prend conscience de notre misère comme Paul, et plus on est apte à enfin pouvoir se confier en Dieu. C'est lorsque je suis faible, a dit Stéphane ce matin, que je suis fort. Ça a toujours été et c'est ainsi. Notre foi, c'est surtout la disposition intérieure. Dans la parabole des talents, il y en avait un qui avait fait fructifier, un deuxième qui avait fructifié, le troisième avait enterré le talent. Alors vous allez dire, il n'était pas productif, il n'a pas porté du fruit. C'est vrai que l'Écriture dit, soit maudit, soit quiconque fasse avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Celui qui se relâche dans son activité est frère de celui qui détruit. C'est vrai, il ne faut pas être léger, hein, il ne faut pas être négligent. Ça, c'est vrai, c'est important, parce que Dieu est sérieux, il est conséquent. Des fois, on dit, où est le Dieu d'Élie? Et Dieu dit, mais où sont les Élies de Dieu? Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui s'appuyer. Nous, on veut s'appuyer sur Dieu, mais Dieu veut aussi s'appuyer sur nous. Donc ça, c'est sûr. Mais néanmoins, c'est au-delà, dans la parabole des talents, du fait qu'il n'ait pas fait fructifier le talent, qui néanmoins était déjà condamnable en soi. Regardez ce qu'il dit. « Je sais que tu es un maître dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur et j'ai enterré le talent. » C'était sa mauvaise disposition intérieure qui l'a condamné en fin de compte. parce que son cœur avait des a priori négatifs sur son maître. Et parce qu'il avait des a priori négatifs, alors ça l'a amené à la paresse, je vous l'accorde, ou ça a justifié sa paresse, peu importe, et c'est vrai qu'il n'a pas fait fructifier le talent. Mais là où le maître a été attristé, c'est plutôt l'image qu'il pouvait avoir de lui. Et parfois, à l'égard de Dieu, nous avons une mauvaise image. Peut-être parce que dans notre enfance, nous n'avons pas eu un foyer ou un contexte qui nous permettait d'avoir une bonne image. Peut-être, c'est vrai. Toujours est-il que, d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin d'avoir une bonne image de notre Père Céleste. Dieu est bon. Il ne veut que notre bien. Dieu est sage et ne se trompe jamais. Et quand nous sommes trompés, eh bien, il est comme un GPS, disait un frère, un jour venant dans notre église, ce qui veut dire guidé par le Seigneur. On trompe de voie, hop, et puis il nous fait retourner, le juste tombe sept fois, et Dieu le relève. Même si on a un manquement, on dit oui, mais là c'est un manquement, mais il n'est pas le même que d'habitude parce qu'il est de ma faute. Et alors, qu'il soit de notre faute ou de la faute, Dieu est là pour pardonner celui qui lui demande pardon et pour le remettre dans la trajectoire, dans ce qu'il avait prévu lui. Parce que Dieu ne les désarme jamais. On peut être découragé. Mais quelqu'un disait que désespérer, c'est tourner le dos à Dieu. On doit espérer contre toute espérance parce que Dieu ne désarme jamais. Même si nous, il s'est passé des années, qu'on a fait pique-pendre et qu'on a été... il est encore temps. Il est encore temps de retrouver la trajectoire initiale de ce que Dieu avait prévu avant même que nous naissions. Car avant la fondation du monde, il nous connaissait déjà. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, évidemment, il les a... glorifié. Nous avons tout pleinement Jésus-Christ, nous sommes déjà à ses yeux, assis avec lui dans les lieux célestes. Alors, nous sommes guidés par le Seigneur. Et si on s'est trompé de voie, Dieu nous récupère. Il faut qu'on ait cette vision d'un Dieu qui nous aime. Pas d'un Dieu qui calcule en disant, ouais, mais toi, t'as fait moins d'efforts, mais toi, quand même, après tout ce que t'as eu, t'as vu la disproportion de tout ce que Dieu t'a béni et comment tu t'es comporté. Non, là, c'est trop. C'est même au point du non-retour. Ah. Alors, restons dans l'axe du cœur de Dieu. Dieu est amour, nous dit l'Écriture. Non pas Dieu a de l'amour, bien sûr qu'il a de l'amour, ça va de soi, mais il est amour, c'est sa nature. Et il est là pour nous amener à lui, il est là pour nous relever si on est tombé, il est là pour nous édifier si on marche bien, il est là pour nous mettre des tuteurs si on marche bien, parce que, voilà, on a besoin toute notre vie de sa présence, mais c'est une présence en valeur ajoutée pour chacun d'entre nous, car Dieu ne veut que notre bien. Que notre bien. Quand Dieu ne veut pas qu'on fasse, qu'on aille à tel endroit ou qu'on se marie avec telle personne ou qu'on ne fasse pas ce travail, c'est pas pour ou qu'on ne veut pas qu'on vive ensemble avant de nous marier. Il y a plein de choses et on se dit ouais mais attends, mais non c'est pour nous éviter. C'est tout ce que Dieu ne veut pas pour nous. S'il ne veut pas qu'on boive 3 litres de whisky, c'est pour nous éviter un mal. C'est pas pour nous empêcher, un empêcheur de tourner en rond, c'est pour nous éviter ce qui serait à notre désavantage, parce que dans son amour, il ne veut que notre bien. Et tout ce qui ne peut pas faire partie de notre bien, eh bien, il ne l'aime pas, parce qu'il nous aime tellement qu'il peut haïr ce qui va à l'encontre de notre bien. Dieu est amour et il ne veut que notre bien. Et Dieu est sage, il ne se trompe jamais. Nous, on se trompe, mais lui ne se trompe jamais. Donc même si on s'est trompé, eh bien, il nous recadre dans ce qui est juste et dans ce qu'il avait prévu pour nous, dans sa préscience. Dieu veut être notre source et notre ressource. Galates nous dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le secret de la vie chrétienne. S'il y a un secret, je vous le dis, il ne faut pas le répéter, c'est le seul moyen pour que ce soit répété, c'est Jésus. Jésus, c'est le secret de la vie chrétienne. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et si nous sommes à Jésus, Jésus veut devenir notre source et notre ressource. Parfois, on veut effectivement lui confier certaines choses, mais il y en a d'autres où on veut maîtriser nous-mêmes. Mais Dieu veut être notre tout et il veut tout contrôler dans notre vie. Et c'est en cela, parfois, que ça fait mal, parce qu'on dit, oui, d'accord, Seigneur, tu me donnes des biens, d'accord, je me confie en toi pour les biens. Mais pour la gestion de ces biens, je sais faire. Dieu dit, non, je te confie les biens et je veux aussi m'occuper de la gestion de ces biens. Alors, ça. Et Dieu veut toujours plus de nous. Et il veut nous délivrer aussi de notre iniquité, de notre péché. Il y a péché et péché. Le péché, on ne lutte pas toujours contre le péché. Mais si on ne lutte pas contre le péché, c'est le péché qui triomphera de nous. Il y a les péchés d'une manière générale, que le sang de Jésus nous lave et nous purifie, mais il y a le péché qu'on ne veut pas abandonner au Seigneur. Et je reconnais que là aussi c'est un combat, mais on ne pourra pas en faire l'économie. On ne pourra pas en faire l'économie. Si nous ne sommes pas à 100% à Dieu, nous sommes nullement à Dieu. Il n'y a pas de pourcentage avec Dieu. C'est soit tout, c'est soit rien. Mais il n'y a pas entre deux. 99%, ça n'existe pas pour Dieu. Hein? Puisses-tu être froid ou bouillant ? Soit t'es rien, soit t'es tout. Et Dieu veut que nous lui abandonnions aussi l'iniquité, le péché. Si mon peuple s'humilie, ce qu'on sait au fond de nous-mêmes que ça ne lui plaît pas. Et s'il nous a laissé pour un temps tranquille par rapport à certaines choses, pour un autre temps, il ne nous laissera pas tranquille. Parce que Dieu veut être tout en nous. S'il n'est pas tout en nous, il n'est rien. Mais il ne peut pas être en partie. Et là, effectivement, c'est parfois un combat à mort, parce qu'on sent comme si on allait à la croix en disant « c'en est fini de moi », parce que c'était presque une partie de ma personne, une partie de mon identité, et même ça, je dois l'abandonner au Seigneur. Alors, péché, c'est ce que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas forcément des choses qui sont illégitimes. Ça peut être légitime, mais ce que Dieu ne veut pas pour nous. Et parfois, Dieu nous demande d'abandonner des choses qu'on se dit « tout, mais ça, je ne peux pas ». Et Dieu dit « non, mais c'est justement ça ». Le tout, pas de problème, parce que je sais que tu n'y es pas attaché, mais ça, c'est une idole. Je veux que tu l'abandonnes. Et Dieu veut nous délivrer de notre orgueil, de notre incrédulité, en ayant une bonne disposition de cœur, comme un enfant qui fait confiance à son père, mais aussi, c'est intérieur, c'est une disposition intérieure. Vous savez, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et dans l'Écriture, ce n'est pas la prière qui est la respiration du chrétien avant tout, c'est la crainte de Dieu. Car Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Et c'est parce qu'il respirait la crainte de l'Éternel qu'il priait sans cesse, qu'il était conscient qu'en tant que fils de l'homme, il avait besoin d'une relation permanente avec son Père. Donc c'est la disposition intérieure qui nous amènera à avoir une vie de prière. C'est la disposition intérieure qui nous amènera à entendre, à écouter Dieu, à l'entendre et à pouvoir obéir. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Dieu veut que nous ayons une bonne disposition intérieure. C'est plus important. Et je termine par effectivement le fait que Dieu veut que nous revenions à lui. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Il aurait pu dire, si les gens du monde étaient moins durs. Pour Dieu, ce n'est pas les gens du monde qui sont durs. Un mort n'est pas dur. Vous avez déjà vu un mort dur, vous ? Un mort n'est pas dur. Un mort, il est mort. Il n'y a pas des morts durs, des morts tendres. Un mort est un mort. C'est son Église qui est dure. C'est son peuple qui a un cou roide, un esprit rebelle. Un mort, Dieu n'a aucun espoir avec les morts. Il s'adresse aux vivants. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu des vivants. Et Dieu s'adresse à son peuple. C'est son peuple qui est dur. Ah, je suis dans un terrain, c'est dur. Les terrains sont tous durs, puisqu'on a affaire à des morts. Un mort, il ne peut pas être une valeur ajoutée. Un mort, c'est un mort. Mais c'est souvent notre cœur qui est dur. Et Dieu veut que son peuple s'humilie, parce que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par nous. Parce que Dieu aime son peuple, et parce qu'il aime son peuple, il a de l'ambition pour son peuple, il prend soin de son peuple, il façonne son peuple, il prépare son peuple à son retour proche pour qu'on soit dans la gloire avec lui éternellement. Et Dieu s'occupe de son peuple. Et son peuple, Dieu pleure. Un serviteur de Dieu, je me rappelle, c'était un Suédois qui était venu à Cannes-sur-Mer. Là où j'ai le plus pleuré dans ma vie, ça a été sur moi-même. Ça n'a pas été sur les épreuves, il n'a pas été épargné. Ça n'a pas été l'Église, sur les gens du dehors, des fois qui nous haïssent. Hein, ils ont haï Jésus, nous haïssent aussi. Non, ça a été sur moi-même. La prise de conscience du misérable que j'étais. Et il disait, toutes les années que j'ai passées, c'est là où j'ai le plus souffert. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. S'il n'y a pas de pardon dans notre cœur, s'il y a quelque chose qu'on n'abandonne pas au Seigneur, si on ne sait pas bien réagir à quelqu'un qui a mal agi à notre rencontre, ou si on a mal agi, que nous sommes appelés à progresser pour ne plus reproduire ce que nous avons mal fait, quelque part, c'est qu'on doit s'humilier. Parce que le jugement va commencer par nous. Dieu s'adresse à nous, c'est nous qui prend soin, c'est nous qui veut voir progresser. Les gens du monde, ce n'est pas qu'ils ne l'intéressent pas, il est mort pour chacun des gens. Mais c'est au travers de son Église qui est belle, parce que nous sommes beaux pour lui. Dieu nous voit beaux. Nous sommes vraiment un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple vraiment victorieux, un peuple glorieux. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est une réalité. Notre identité, elle est en Christ. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, de ce que vous faites en mon nom ou pour mon nom. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et nous sommes des fils de rois. Nous sommes des princes, des princesses. C'est extraordinaire. On a Dieu est notre partage ici-bas pour être à toujours notre héritage dans la gloire. C'est extraordinaire. On est les gens les plus heureux de la terre, les plus heureux, les plus comblés. Mais nous avons maintes et une souffrance. Mais nous avons maintes et une épreuve. Mais tout cela est contrôlé par Dieu, pour ne pas dire conduit par Dieu, pour ne pas dire voulu par Dieu. Parce que Dieu a de l'ambition pour chacun d'entre nous. Et il ne veut pas qu'on reste dans nos zones de confort. Dieu veut qu'on revienne à lui en ne déchirant pas nos vêtements, simplement, mais avant tout en déchirant notre cœur. C'est en prenant conscience, ce n'est pas une affaire émotive. Ah, sur le coup, ah oui, c'est vrai, Seigneur, je... Non, c'est dire, Seigneur, ça suffit, ça suffit. En disant, Seigneur, ça suffit. Désormais, il faut que tu règnes réellement dans ma vie et que je me comporte comme ta parole me le demande, même si ça me coûte. Même si ça me coûte l'affront, ça me coûte, voilà, c'est peut-être l'ancien qui va faire le premier pas vis-à-vis de jeunes en disant, je te demande pardon, c'est quand même un peu une forme d'affront. Mais Seigneur, c'est pour toi. Seigneur, moi, je cherche à construire, je cherche à t'obéir, quoi qu'il en coûte, ce qui m'intéresse, c'est ta gloire. Et c'est une volonté. Vous savez, dans l'amour, il n'y a pas que les sentiments. Il n'y a pas que l'intelligence. C'est vrai que quand on est avec quelqu'un, il y a des points communs, c'est normal. C'est l'âme sœur, comme on dit. Mais au-delà, il y a la volonté. Aimer Dieu, ce n'est pas parce qu'on le ressent. Vous savez, des fois, on est drôle. Hein, on dit, tiens, quand on va à l'entreprise, on va à l'entreprise tous les jours parce qu'on veut la paye à la fin du mois. Mais pour l'église, on dit, non, en ce moment, je ne serai pas vrai. Si je viens, je ne suis pas vrai. On ne va pas dire au patron, écoutez, je ne suis pas venu aujourd'hui parce que je n'étais pas vrai, je n'étais pas dans mon assiette. J'aurais pas été sincère à travailler chez vous, non. Ça viendrait même pas à l'esprit. Alors des fois, on se complique la vie. Ce que l'on fait pour les choses séculières a plus forte raison pour les choses éternelles. A plus forte raison. Et dans l'amour, c'est pas parce qu'on ressent un gris, Seigneur, je t'aime, je ressens pas, j'aime. C'est une affaire de volonté avant tout. J'ai décidé. Dieu m'a aimé le premier, j'en ai pris conscience. Dieu me l'a révélé. En retour, je veux t'aimer. Donc, c'est la volonté qui est avant tout. Alors, des fois, je veux t'aimer, je ne ressens rien. Mais je suis là quand même, Seigneur. Je ne ressens rien, mais je suis là. Je suis là. Et il y a une saison très difficile, la saison d'hiver. Hein, ce n'est pas pour rien qu'il y a plusieurs saisons. Mais c'est une saison rude, rustre. Ce n'est pas grave. Ça fait partie de ma vie. Il y a cette saison-là. Il y a un péniel. Je m'en passerai. Mais Dieu connaissait le cœur de Jacob. Et Dieu voyait que Jacob était intéressé aux choses d'en haut. Et quand il a acheté à Ésaü le droit d'aînesse, c'est parce qu'il avait à cœur la bénédiction d'en haut. Simplement, Jacob, qui veut dire rusé, trompeur, il agissait par lui-même, par la chair. Et c'est ça que Dieu... Ce n'était pas ses dispositions intérieures de Jacob qu'il aimait les choses de Dieu, c'était la manière dont Jacob voulait arriver à ces choses de Dieu qui étaient à sanctionner. Parce que Jacob s'appuyait sur lui-même. Et quand il a été frappé à la hanche, même Jacob a dit, écoute, ça fait mal, mais pas encore assez, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Jacob avait soif de... Et avoir soif, c'est justement affronter, c'est accepter notre péniel, c'est affronter la difficulté. C'est pas dire ça va plus comme je veux, ça va plus comme je pense, ça va plus comme j'ai projeté, donc on passe à autre chose. Non, c'est dire... Mon but, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce que nous avons de plus précieux, c'est Jésus. Et Jésus dans notre cœur, Jésus certes sur la croix avant que nous naissions, Jésus dans notre cœur le jour où nous l'avons, mais Jésus pour toujours avec nous, dans la gloire lorsqu'il reviendra. Et il faut qu'on soit prêt pour son retour. Mais pour cela, il faut qu'on déchire nos cœurs, qu'on revienne à lui et qu'on s'humilie. Car c'est si mon peuple s'humilie, puisque le jugement va commencer par sa maison. Et il vaut mieux s'humilier à demander pardon, ça fait profit de bas, c'est vrai que ça ne fait pas... Hein, ça fait... Mais... L'important, c'est d'être dans l'axe de ce que Dieu veut. Tant pis pour la superbe, tant plus pour ce qu'on va penser de nous, tant pis si on va être écorché dans son image du super chrétien. Vous savez, il n'y a pas de super héros, il n'y a pas de super chrétien. Il n'y a pas de super chrétien, il n'y a pas de super héros. Il y a des chrétiens qui ont une foi, une dimension de foi plus ou moins grande, mais on a tous la foi divine en nous. Notre foi dans notre cœur est la même que celle d'Abraham. Et la même que celle d'Élie. Vous allez me dire, oh, quand même, il culotté. C'est pas la même mesure, mais c'est la même nature. Nous avons la même foi qu'Abraham avait. C'était une foi divine. Nous avons la foi divine dans notre cœur. C'est la mesure qui n'est pas la même. La mesure, bien sûr. Mais il n'y a pas de super chrétiens. Il y a des chrétiens tout court qui ont la foi de Dieu en eux avec une plus ou moins grande mesure. C'est vrai. Mais cependant, nous sommes ce que nous sommes. Faibles nous sommes, faibles nous resterons. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, ça ne vient pas de nous. Donc, même si demain Dieu accomplit des miracles au travers de nous, on restera toujours ce que nous sommes. Il faut s'identifier, bien sûr, mais il faut être détaché en même temps. Bien sûr, il faut se conformer à ce que Dieu nous confie, mais il ne faut pas s'identifier. Alors, il faut ne pas oublier que ce n'est pas le vase qui est important, c'est le contenu du vase. Et pour que le contenu prenne son aise en nous, il faut qu'on puisse s'humilier sous sa puissante main. Car autant Dieu habite les lieux élevés, autant il est près de ceux qui ont le cœur contrit et l'esprit humilié. Dieu est près des petits. Dieu est près de celui qui se repent, de celui qui s'humilie, de celui qui accepte, qui accepte sa formation. Nous devons pleurer sur nous-mêmes, respirer la crainte du Seigneur et rechercher continuellement sa face. Nous devons chercher continuellement sa face pour devenir des adorateurs. Et je termine par là. Regardez ce que Jacob est devenu. Jacob qui était rusé, trompeur, calculateur. Il avait soif des choses de Dieu, je vous l'accorde. En cela, il nous ressemblait. On est tous un peu du Jacob ce matin. Son problème, lui, c'était la tromperie. Nous, c'est peut-être d'autres choses. Ça va être la propre justice, la vanité, la suffisance, notre entêtement, je ne sais pas. On a chacun des traits. Mais Dieu lit dans notre cœur, puisqu'avant la fondation du monde, il nous connaissait déjà. Et s'il nous a appelés, c'est parce qu'il nous avait choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Nous, on l'a choisi en retour de son choix. C'est lui qui nous a choisis. Et si on est là, c'est pas par le produit du hasard ou le produit de notre seule volonté, c'est par sa grâce que nous sommes là. Alors, Dieu nous a choisis, il nous a établis pour qu'on porte du fruit, mais il désire pour cela que nous remplissions les conditions. Et Dieu cherche des adorateurs. Et quand Jacob, qui était trompeur et qui a été trompé lui-même, mais qui a été battu par Dieu, c'est à partir de là qu'il a été vainqueur. C'est une fois qu'il était vaincu qu'il était devenu vainqueur. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que Jacob a terminé sa vie en adorant sur un bâton. Ah, il avait un bâton pour rappeler qui était Jacob. C'était plus le suffisant, c'était plus le propre juste. Jacob, c'est celui qui avait été à l'école de Dieu. Mais il était devenu un adorateur. Un adorateur. Si mon être extérieur se détruit, l'important, c'est que mon être intérieur se renouvelle. Et Dieu veut que nous ayons cette vie abondante en nous. Qu'on soit heureux d'être pas uniquement heureux de ses bénédictions. Bien sûr, c'est par ses bontés que l'on jouit de la vie. Il nous donne la vie, peut nous donner la santé, peut nous donner une famille, peut nous donner des biens matériels, il peut nous donner une vie sociale, une vie dans l'Église. Merci pour toutes ces grâces, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Mais surtout heureux, un jour, une personne qui était en train de mourir disait à un serviteur, c'est dans un livre que j'avais lu ça m'avait marqué, « Je ne peux me passer de lui ». Il n'avait plus rien. À un certain âge, tout était parti. Il était près de la tombe. Je ne peux, et il dira, mais il ne peut se passer de moi. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est une relation vraiment d'amoureux. Dieu veut qu'on devienne il nous a fiancés. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Et un fiancé, il est amoureux. Et Dieu veut qu'on soit des passionnés de Dieu. Dieu veut qu'on soit des amoureux du Seigneur. Ah oui. Il veut qu'on soit vraiment... vraiment un peuple d'adorateurs, d'un peuple d'adorateurs. Je disais à Steph, je voyais tous les livres, il a une grosse bibliothèque et je lisais beaucoup au début de... Et je lis de moins en moins. Alors certains diront, j'ai moins de temps, tout ça. Je donne moins priorité à certaines choses et plus j'avance dans le Seigneur et plus je donne priorité à passer du temps en sa présence, à l'adorer, à l'intercéder, à le louer, à le célébrer. Je me retrouve dans un coin, il y a plusieurs chrétiens qui disent « Allez, je suis dans l'eau et j'adore. » Le plaisir de lui faire plaisir. Et j'ai besoin, ça devient un besoin. Au début, c'était un désir, après ça devient un besoin. Et ça devient même une soif. On a soif de mieux le connaître. Plus on a goûté à la bonté de Dieu, et plus on a soif de davantage. Et Dieu veut que pour chacun d'entre nous, on devienne des passionnés de Dieu, des amoureux du Seigneur. « Non, je l'aime plus que toi. Non, c'est moi, Dieu. » Des amoureux du Seigneur. Réjouissons le cœur de Dieu, parce que Dieu nous aime et il désire qu'en retour, nous puissions accepter nous aussi de l'aimer. Jacob a bien terminé sa vie en adorateur, nous relate l'Épître aux Hébreux, malgré un commencement qui laisse à désirer. Quand vous lisez Genèse, ce n'est pas toujours simple pour Jacob, mais pour qui c'est simple? Tout cela vient de Dieu. Tout vient de Dieu. C'est lui qui nous a choisis alors que nous n'étions pas encore nés et c'est lui qui va nous amener à maturité. au travers des épreuves, des disputes, ben c'est pour nous amener à maturité. Hein. C'est pas dire, ouais, mais je comprends pas et tout. Ben oui, il faut comprendre que pour exercer le pardon, il faut d'abord qu'il y ait le conflit. Comment voulez-vous pardonner à quelqu'un qui vous a pas fait de mal? Comment peut-on savoir qu'on pourra exercer la miséricorde qui triomphe du jugement si on n'a pas été, je dirais, victime, entre guillemets, d'une injustice, hein? Il faut bien qu'il y ait d'abord l'injustice pour qu'ensuite on puisse exercer la miséricorde. Donc, forcément, Dieu a le contrôle de tout, mais il nous demande de répondre selon sa parole, selon ses critères, selon son plan, et pour cela, il faut se remettre en cause, il faut reconnaître l'état des lieux et s'humilier, comme le dit la parole. Tout cela vient de Dieu, qui connaissait son cœur et a fait de lui un nouvel homme. Jacob est devenu Israël, avec un nouveau nom, précisément à Péniel, et au travers de quoi? Du brisement. Donc si nous sommes en souffrance, si nous sommes dans un chemin difficile d'attente d'un travail, d'un conjoint, d'un exaucement, d'une guérison, de voir sa famille venir au Seigneur, de voir toutes sortes de souffrances, hein, d'un péché disparaître de sa vie, le Seigneur, il est là. Et il nous demande simplement de lui faire confiance. Donc, je contrôle tout, ça te paraît long, ça l'est certainement à des yeux, mais sache que je contrôle. Et le Seigneur nous demande simplement de croire et de persévérer dans cette foi, parce qu'il se glorifiera dans la mesure où nous respectons notre engagement qui est de le suivre et de lui être fidèle. Vous savez, si on peut être persévérant, c'est parce qu'il est fidèle. Tout vient de lui. Des fois on dit, ah, oui, il est persévérant, parce qu'il est fidèle. Il ne serait pas fidèle, on ne pourrait pas persévérer. Donc celui qui a commencé l'œuvre, ben, il la poursuit inlassablement. Et il achèvera son retour qui est proche. On peut en être certain. Je dirais presque qu'on le veuille ou non, en exagérant un peu, parce que Dieu nous... Mais c'est lui le maître d'œuvre. Alors, on peut espérer contre toute espérance. Tout va très mal peut-être pour aujourd'hui, c'est la saison d'hiver, mais on peut espérer, parce que tout est dans sa main. Nous sommes dans sa main, aucune épreuve ne pourra nous terrasser, et après l'hiver, il y a le printemps. Donc, dans tous les cas, les saisons ne font que passer, mais celui qui nous tient dans sa main, lui, demeure. Il demeure en printemps, en été, en automne et en hiver. Mais il demeure. Et il veut que nous demeurions en lui. Que le merveilleux nom de Jésus soit béni. Amen. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Et nous te remercions pour l'œuvre de la croix et les conséquences bénies dans nos cœurs par le Saint-Esprit de nous l'avoir révélé. Nous désirons être toujours plus emplis de cet esprit de sagesse et de révélation pour voir. Et nous te remercions lorsque tu nous permets en plus de comprendre. Mais nous voulons surtout avant tout te faire confiance. Donne-nous de passer du temps, Seigneur, à méditer ta parole. De passer du temps, Seigneur, à intercéder, à prier, pour nous-mêmes, c'est vrai, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Il y a tellement de besoins. De passer du temps à t'adorer, Seigneur, pour qui tu es. Ce que tu as accompli à la croix, certes, mais qui tu es, simplement qui tu es. Nous voulons être un peuple, nous aussi, d'adorateurs. Tu as choisi Jacob, il était rusé, trompeur, plein de chair, mais néanmoins, tu as fait de lui un adorateur. Alors, Seigneur, tu veux pour chacun d'entre nous faire aussi des adorateurs. C'est ce que tu cherches, des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous te supplions de poursuivre ton œuvre en te demandant pardon pour notre dureté de cœur, pour notre lenteur à croire, en particulier pour moi-même, bien sûr, mais aussi pour mes frères et sœurs qui pourraient aussi se reconnaître. Te prions d'avoir compassion de nous, Seigneur, et de nous permettre de mieux te connaître, car nous avons soif de mieux te connaître. Tu es toute notre vie, Seigneur. Et nous ne pouvons pas nous passer de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur, remplis-nous de toi. Père, dans le précieux et dans le merveilleux nom de ton Fils bien-aimé Jésus, nous t'en bénissons à jamais. Amen.